moi j'étais très clairement un élève très moyen. J'ai eu mon bac mention passable, j'étais vraiment pas du tout prédisposé à faire des grandes études. Donc le jour où j'ai appris que j'avais réussi médecine, pour moi ça reste le moment le plus incroyable et le plus puissant de ma vie. Et ce qui est fou, c'est que j'avais une visualisation extrêmement puissante et en fait pour moi c'était évident que j'allais réussir. À la fois tous les voyants étaient au rouge et montraient que je risquais de me vautrer, et puis finalement j'étais tellement persuadé que j'allais réussir que j'ai réussi. Nous avons en fait en nous une boussole interne, et quand on est vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment faire, avec ce qu'on peut appeler entre guillemets notre mission de vie, ben d'une manière assez étonnante, ça fonctionne.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Denis.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Bah super bien, ravi d'être avec toi, ravi d'être avec ta communauté, de pouvoir partager plein de choses sur les sujets qui me passionnent.
Exactement, bah merci de m'accorder un petit peu de ton temps. En plus, il est tôt aujourd'hui, on est samedi au moment où on enregistre cet épisode. Je vais commencer déjà par t'appeler docteur Denis, docteur Denis Coster. T'es pionnier en médecine préventive, le premier à détenir simultanément deux diplômes universitaires en médecine anti-âge et prévention validés par les universités françaises, médecin anesthésiste réanimateur, ancien chef de clinique des universités, instituteur en hypnose auprès de la NGH, l'une des plus anciennes et importantes associations d'hypnose aux États-Unis. T'es coach santé également, formé par Robert Tiltz, une figure de la PNL, la programmation neurolinguistique au niveau international. T'es également auteur, ayant publié chez des éditeurs de renom tels que Larousse, Albin Michel, ainsi que tu as publié différents articles dans Forbes sur différents sujets liés à la santé. T'es pionnier dans le domaine du biohacking en langue française. Tu as écrit un premier livre en France, le premier livre en France sur le sujet. Tu es aussi infopreneur où tu proposes différents produits sur des thématiques liées à la santé moderne telles que les addictions au sucre, l'arrêt du tabac, la gestion du stress, l'amélioration du sommeil et d'autres sujets. Et tu es à l'origine la première formation en français dédiée au biohacking. Et c'est ce dont on va parler. Donc après cette longue présentation et félicitations pour ton parcours, ma première des questions que j'ai envie de te poser, c'est revenons à tes débuts. Avant de rentrer dans le monde de la médecine, est-ce que tu as eu des expériences qui t'ont conduit à t'intéresser à autant de domaines autour de la santé, car tu as un panel d'expériences vraiment large dans divers domaines, que ce soit l'hypnose, la médecine traditionnelle, d'autres types de médecine, le biohacking, la PNL. Est-ce qu'il y a eu un déclic personnel à un moment donné qui t'a poussé à aller dans cette voie ?
Alors, je vais te raconter comment je suis venu à la médecine. Et en fait, c'est très drôle parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent bah t'as dû venir à la médecine parce que tu rêvais d'aller soigner les petits enfants en Afrique ou des choses comme ça, et en fait pas du tout. Moi, ce qui m'a conduit à m'intéresser à choisir la voie de la médecine, c'est tout simplement la lecture de Marvel. Enfin, ça paraît un peu dingue, mais c'est la vérité. En fait, quand j'avais à peu près 15-16 ans, j'étais un dingue des BD Marvel, et il y avait une BD Marvel où il était question de géants galactiques qui s'appelaient les Célestes, qui manipulait l'ADN et que ça permettait de faire des manipulations génétiques. Donc à l'époque, je ne savais pas trop ce qu'était cette molécule, je me suis renseigné, j'ai découvert l'ADN et je me suis dit, mais c'est un truc incroyable, donc j'ai voulu être chercheur en biologie moléculaire.
D'accord.
Donc je suis allé à l'Institut Pasteur, j'ai rencontré un chercheur en biologie moléculaire, je lui ai dit, ben voilà, moi je vais faire comme toi, comment je dois faire. Et il m'a dit, écoute, il y a trois possibilités, ou alors tu es très bon et tu fais normal sup. Bon, il faut savoir que moi j'étais un élève très moyen. Ou alors tu fais la fac de biologie, mais tu ne sais pas où tu vas aller. Ou alors tu fais médecine, et puis comme ça, si tu ne veux plus faire de la recherche, tu pourras faire autre chose. Donc ben finalement, j'ai fait médecine pour ça, donc pour être chercheur en biologie moléculaire. Alors après, effectivement, le parcours au sein de la médecine m'a conduit à différents stages, différentes découvertes, pour finalement choisir de devenir anesthésiste réanimateur. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que comme maintenant je m'intéresse au biohacking, qui est le sujet dont nous allons allègrement parler, ben manifestement je suis revenu à mes premières amours, puisque une des cibles directes ou indirectes du biohacking, c'est l'ADN. Donc tu vois, finalement, la boucle est bouclée.
Complètement. Et justement, tu évoques le biohacking en terminant ta phrase. Je vais l'évoquer en démarrant la mienne. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans le monde du biohacking spécifiquement ? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a été un tournant pour toi, qui t'a incité à dévouer justement une partie de ta vie, tes recherches au biohacking ?
Alors là encore, c'est tout un espèce de parcours. En fait, au cours de mes études de médecine, j'ai constaté à quel point notre médecine allopathique, tout ce que j'apprenais, était extrêmement puissant pour soigner les gens malades, du moins pour soigner leur corps. Mais je me disais qu'il manquait une dimension qui était une dimension, je dirais, mentale et émotionnelle. Et c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser à l'hypnose, hein, puisque effectivement, comme tu le dis, maintenant, je suis instructeur en hypnose et je me suis également intéressé au coaching. Donc vraiment, j'avais comme ça tout l'aspect mental, dans une vision, ce que l'on peut appeler un peu globaliste ou holistique. Ensuite, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin maintenant, grâce à la médecine, je vais m'occuper du corps, grâce à l'hypnose et au coaching, je vais m'occuper de l'esprit et des émotions. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Alors j'ai découvert la médecine anti-âge, donc la médecine de prévention du vieillissement. L'idée était donc non plus de sauver des vies en tant que réanimateur, l'idée était de maintenir une vie en bonne santé le plus longtemps possible. Et après, finalement, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un espèce de package de tout ça avec de la médecine allopathique, tout ce que j'ai pu apprendre au niveau de la médecine corps-esprit avec l'hypnose, le coaching, plus de la médecine anti-âge pour chercher plutôt à optimiser la santé, non plus à soigner, non plus à maintenir, mais vraiment à optimiser. Et en fait, c'est tout simplement en discutant avec un ami marketeur qui m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, ça s'appelle le biohacking. Donc, effectivement, j'ai regardé et ce qui m'avait, enfin, mon parcours personnel m'avait donc conduit à faire ma propre découverte de ce qu'était le biohacking et j'ai vu effectivement que c'était un domaine absolument fascinant, à la fois de l'optimisation du corps et de l'esprit, de l'optimisation du corps par l'esprit, l'optimisation de l'esprit par le corps. Et donc voilà, je me suis lancé dans l'aventure. Alors au début, je le faisais d'une manière relativement intellectuelle, en me disant, enfin en faisant des recherches, et c'est finalement au décès de mes propres parents que j'ai vraiment appliqué tous les enseignements que j'avais pu avoir sur moi-même. Et effectivement, là maintenant, j'ai 51 ans. Je suis beaucoup plus en forme maintenant à 51 ans que je l'étais à 40. J'ai perdu 15 kilos, je soulève bien plus lourd à la salle, je suis beaucoup plus productif. Donc, comme tu l'as dit, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des infoproduits, etc. Et tout ça en étant médecin à plein temps, en étant marié, en ayant 4 enfants. Et quand on me demande, mais comment tu fais pour faire tout ça? Je dis tout simplement, ben, je me biohack. Voilà, ça, c'est donc tout un parcours de vie qui m'a conduit au biohacking.
C'est fascinant et ce qui est intéressant, c'est que tu es l'exemple concret de l'application des conseils que tu donnes et qu'on y voit les résultats. Le biohacking, on en parlait il y a quelques instants en off, c'est un peu à la mode, justement, avec différents outils, différentes solutions. Pour ne citer que ça, des éléments comme la Whoop, le Oura Ring ou des choses comme ça, qui rendent aussi assez, comment dirais-je, assez sexy. Le fait d'aller analyser les datas de son corps, etc. Mais pour beaucoup encore, ça reste un peu abstrait ou en surface. Il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler. La raison pour laquelle moi, je suis enchanté de t'avoir ici sur le déclic, également d'autres animateurs de podcasts qui commencent de plus en plus à en parler, démocratiser la chose. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas réellement ce qu'est le biohacking, pour une manière, d'une manière simple, comment est-ce que tu pourrais décrire et expliquer le biohacking?
Bon, en fait, on va prendre la racine des mots, hein. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que le mot hacking peut faire un petit peu peur. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lancer le biohacking en France il y a à peu près 3 ans et demi, j'avais vraiment hésité à garder ce nom parce que je le trouvais un petit peu touchy, un petit peu geek. Et bon, finalement, voilà, j'ai préféré le garder. Force est de constater que c'était une bonne idée puisque maintenant, c'est vraiment le mot qui est utilisé. Alors, si on reprend la racine. Bio, c'est la vie, et hacking, c'est tout simplement le piratage, la prise de contrôle. Alors, il faut effectivement bien insister sur le mot hacking, qui a une connotation assez péjorative. En informatique, on parle des black hat hackers, donc ce sont les hackers qui viennent pirater le système pour l'abîmer, pour voler des données. Et il y a les white hat hackers, donc ce sont les hackers, on va dire, positifs, qui cherchent au contraire à optimiser le système et à le protéger. Et c'est vraiment dans cette logique que le biohacking a été créé. Le biohacking a été en fait popularisé par un entrepreneur américain qui s'appelle Dave Asprey. Dave Asprey avait des gros gros problèmes de santé. Il disait qu'il avait hérité d'une génétique familiale pas forcément très très glorieuse, que lui-même il avait un mode de vie pas très adaptée à une santé longue. Et en fait, il s'est dit, ben, comment je pourrais appliquer mes connaissances en informatique à ma santé? Et donc, il s'est dit, voilà, je vais chercher à hacker ma biologie. Donc, le biohacking, c'est tout simplement ça, chercher à prendre le contrôle de sa biologie. Alors, concrètement, comment on peut prendre contrôle de sa biologie? Eh bien, en fait, tout à l'heure, je parlais de l'ADN. Alors, l'ADN, c'est une molécule que nous avons au sein de nos cellules qui contient notre code génétique. Et nous avions avant une croyance en science qui était que quand on avait un ADN qui nous disait telle et telle chose, on était marqué à vie, on était obligé d'avoir une vie conforme à notre ADN. Finalement, il y a une nouvelle science qui a émergé, qu'on appelle l'épigénétique, qui a montré que finalement, par notre comportement, nos actions, notre environnement, nous pouvions quelque part décider de l'expression ou non de certains gènes. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons moyen, par la maîtrise de notre environnement, de maîtriser notre biologie. Concrètement, maîtriser notre environnement, ça veut dire quoi? C'est maîtriser notre environnement interne. Environnement interne, c'est par exemple nos pensées, nos émotions, mais c'est également notre digestion, notre microbiote, nos hormones. Et il y a également tout l'environnement externe. L'environnement externe, c'est les aliments que je vais manger, c'est les ondes éventuellement électromagnétiques ou la pollution à laquelle je suis soumis, c'est également le stress que je vais rencontrer dans ma vie. Donc à partir du moment où je maîtrise mon environnement interne et externe, je peux influencer ma biologie, je peux maîtriser ma biologie, je peux prendre finalement le contrôle quelque part de mon ADN et donc éveiller l'ADN. Comme je le dis parfois, notre ADN latent de super-humain.
Alors, tu parles justement de super-humain et moi je trouve que le mot est très approprié. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au biohacking et qui sont en quête de s'améliorer, j'en fais partie, que ce soit justement, alors pour ma part, je vais te citer deux, trois choses que je mets en place, mais typiquement, déjà je pars du principe que il faut avoir une base saine. Donc, je ne bois pas d'alcool, je m'hydrate correctement, je fais en sorte de m'hydrater correctement, pas juste en buvant de l'eau, mais aussi avec des électrolytes et des éléments comme ça. Je mange correctement, je fais du sport régulièrement, j'essaie d'avoir un environnement sain au global, je dors correctement. Justement, je traque mon sommeil, je fais des prises de sang tous les trimestres pour analyser. Des prises de sang poussées pour analyser justement si j'ai des carences ou il y a des éléments importants. Sur cette base de prise de sang, je vais établir un plan avec un médecin, docteur ou pharmacien de complémentation adapté à ma situation à l'instant T. Et du coup, je vais essayer d'améliorer que ce soit mon état physique, mon état mental, mon état émotionnel, mes performances intellectuelles, etc., etc. Donc, ça, c'est effectivement, on va dire, la base, enfin pour moi en tout cas, de l'amélioration, la connaissance de soi et l'optimisation. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, en quoi du coup maîtriser notre biologie, peut-elle affecter notre énergie à tous les niveaux, nos performances en tant qu'individu ou en tant qu'entrepreneur, que ce soit mental, physique, émotionnel, spirituel, que tu as pu identifier, au sein des gens que tu as pu accompagner ou qui peuvent appliquer tes différents conseils?
Alors voilà, c'est très intéressant ce que tu as mentionné. Tu as mentionné effectivement ce qu'on appelle nos quatre énergies. Nous avons une énergie physique, nous avons une énergie mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc si on prend la base, l'énergie physique, ok, c'est notre force musculaire. Notre énergie mentale, ça va être par exemple la puissance de nos pensées, de notre concentration, de notre motivation. L'énergie émotionnelle, c'est notre bien-être, notre stabilité émotionnelle. Et l'énergie spirituelle, je dirais, c'est une espèce de quête un petit peu humaine ou du moins une quête de ce qui nous dépasse. Donc il y a vraiment le focus sur ces quatre énergies qui est extrêmement important chez tout le monde et peut-être plus, je vais parler par rapport aux entrepreneurs puisque ce sont les entrepreneurs qui nous écoutent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental. Seulement, quand en développement personnel ou en coaching, on parle d'énergie, on va aller chercher des concepts un petit peu étranges parce qu'en fait, on ne comprend pas trop bien ce que c'est que l'énergie. Alors je vais juste faire un petit focus sur le terme énergie.
Bien sûr.
L'énergie en sciences physiques, ça se définit comme étant tout ce qui peut permettre de fournir un travail. Ben, ça tombe bien, les entrepreneurs, ils doivent fournir un travail. L'énergie en physique, c'est également ce qui permet un rayonnement. Et ben, c'est super parce que les entrepreneurs, ils veulent rayonner au monde. Les entrepreneurs sont vraiment des personnes qui ont à cœur de vouloir apporter une pierre à l'édifice et pas que créer quelque chose pour leur propre compte. Je veux dire, là, par exemple, tu partages grâce à ce podcast, hein, et d'ailleurs, je t'en remercie, tout un tas de choses. Tu tiens vraiment à partager tes connaissances et tes apports. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui te permet de grandir toi-même et de permettre également à tout le monde de grandir. Donc, c'est pour ça que l'énergie, en termes physiques, est également à comprendre sur le plan un peu métaphorique. Ensuite, l'énergie sur le plan chimique, c'est quoi? C'est ce qui permet de changer d'état. Si on considère un glaçon, il a besoin d'énergie pour devenir de l'eau. Si on applique de l'eau, plutôt si on applique de l'énergie à l'eau, elle va devenir de la vapeur. Donc finalement, l'énergie en chimie, c'est ce qui permet de changer d'état. Eh bien effectivement, l'énergie, c'est quelque chose qui nous permet de changer d'état. C'est quelque chose qui nous permet de passer du statut d'un homme, entre guillemets, vulgaire, d'un homme basique, à chercher une optimisation. Donc c'est pour ça que l'énergie est fondamentale. Après cette petite présentation un petit peu, peut-être un petit peu fastidieuse, si on vient à des choses plus pragmatiques, l'énergie chez l'être humain, c'est quelque chose qui est extrêmement pratico-pratique. En fait, l'énergie de l'être humain, c'est l'énergie de nos cellules. En fait, il faut comprendre que nous sommes vivants parce que nos cellules sont vivantes. Et nos cellules sont vivantes parce qu'elles ont de l'énergie. Elles ont de l'énergie pourquoi? Parce qu'elles sont capables de synthétiser une molécule qui s'appelle ATP, adénosine triphosphate. Et en fait, comment l'énergie est fabriquée à partir de nos cellules? Et bien, tout simplement à travers ce que l'on mange et ce que l'on respire. En fait, nos cellules sont capables de transformer ce que nous mangeons, les nutriments que nous mangeons, à l'aide de l'oxygène que nous respirons, en énergie, sous forme de cette molécule qui s'appelle l'ATP. Eh bien, je dirais que l'énergie cellulaire, l'ATP, c'est un petit peu la cible in fine du biohacking. En fait, on fait tout pour augmenter notre énergie cellulaire, parce que cette énergie cellulaire sera la base de notre énergie physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Ok, et c'est hyper intéressant dans le concept que tu évoques ici. Ça veut dire que même si on cherche à optimiser ce que l'on absorbe, ce que l'on ingère et comment on vit, l'environnement dans lequel on vit a également un impact direct sur notre capacité à synthétiser ces aliments et ces nutriments. C'est-à-dire qu'en gros, si on habite dans un environnement qui va être très pollué ou très stressant pour notre système immunitaire, on va absorber les nutriments et les énergies d'une façon complètement différente que si on habitait dans un environnement qui était beaucoup plus sain, c'est ça?
Oui, c'est très exactement ça. En fait, il faut comprendre que dans les polluants, il y a par exemple des métaux lourds, et que les métaux lourds, justement, risquent de contrecarrer les réactions biochimiques qui permettent de produire l'énergie cellulaire. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon, je risque un petit peu d'endormir toutes les personnes qui nous écoutent. Bon, en même temps, je suis anesthésiste, c'est peut-être un petit peu mon rôle. Mais je vais quand même rester dans les choses relativement simples. En fait, nous avons des réactions biochimiques qui nous permettent d'avoir de l'énergie. Et ces réactions biochimiques ont besoin effectivement de bons nutriments, mais ont également besoin de vitamines, ont besoin d'oligo-éléments et sont très très sensibles à la pollution et à tout ce qui peut justement nuire à notre santé, que ce soit, comme tu disais, de la pollution, je dirais, physique, par exemple les métaux lourds, mais ça peut être également la pollution mentale. La pollution mentale qui est finalement du stress excessif, ça peut également empêcher nos cellules de bien synthétiser l'énergie. Donc là encore, c'est quelque chose de très globaliste. Il faut vraiment rester focus sur cette énergie. D'abord, éviter de la gâcher. Alors certes, il existe des méthodes pour augmenter l'énergie cellulaire, il existe des compléments alimentaires pour augmenter l'énergie cellulaire, mais déjà, commencez par éviter de la gâcher.
Oui, complètement. Tu évoquais tout à l'heure le fait que donc tu as appliqué nombreux éléments à ta vie, à ton quotidien, et que effectivement aujourd'hui tu as une forme qui est bien meilleure que ton âge réel. Concrètement, dans quelle mesure le biohacking a eu un impact dans ta vie, dans ton quotidien, et comment est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien? Ça pourrait être intéressant, et après on viendra justement sur l'importance du biohacking pour les entrepreneurs, qu'est-ce que ça peut leur apporter concrètement dans leur quotidien d'entrepreneur ou dans leur performance globale?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
En fait, c'est déjà à travers des routines relativement simples, faire en sorte par exemple d'éviter, tu l'as dit, hein, d'éviter tout ce qui peut nuire à la santé, hein, des choses aussi basiques que ne pas fumer, éviter de boire de l'alcool, éviter le sucre, éviter le stress excessif, éviter les manques de sommeil. Donc toutes ces choses-là qui semblent assez simples et qui finalement sont fondamentales. Je vais juste faire une petite digression, mais le fait est que la longévité n'a cessé d'augmenter dans nos pays grâce au progrès de la médecine, de l'hygiène, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement maintenant une diminution de la longévité à cause du développement des maladies chroniques. Les maladies chroniques qui, a priori, nous tueront tous avec la vieillesse, c'est les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et les cancers. Et en fait, l'un des points communs, effectivement, de ces problèmes, c'est voilà, des choses de base comme le stress, la malbouffe, le tabac, etc. Donc déjà, commencer par des routines simples qui permettent d'éviter les maladies. Ça, c'est un premier point. Tout d'abord, on évite les maladies, ça c'est un premier point. Et ensuite, on va chercher à soigner sa santé. Soigner sa santé par une hygiène de vie, par exemple de l'activité physique régulière, par faire en sorte de manger correctement. Donc en ce qui me concerne, je ne mange pas au petit déjeuner ou alors si je mange, ça va être des protéines et des graisses. Hein, comme par exemple, je dois pour une raison X, Y manger le matin parce que je sais que je ne mangerai pas le midi ou autre. Ça participe également à toute une espèce de routine du quotidien, la méditation le matin, la douche froide effectivement quand je peux, en l'occurrence je fais en sorte d'en faire tous les jours, mais ça je dois bien avouer que parfois, notamment quand je sors de garde, c'est un peu compliqué. Et sinon, une fois que tout ça s'est mis en place, et bien après, effectivement, on peut chercher à aller plus loin via des compléments alimentaires. Bon, je ne vais pas forcément faire le listing, mais il y a énormément de compléments alimentaires qui peuvent aider. Mais d'une manière très claire, on va rester simple avec la loi de Pareto du 80-20. En fait, la santé et l'optimisation, c'est 20% d'efforts et c'est 80% de résultats. Et ces 20% d'efforts, c'est tout simplement avoir une hygiène de vie raisonnable. Éviter le sucre, éviter la malbouffe, éviter le tabac, éviter le stress autant que faire se peut, éviter les troubles du sommeil. Et une fois que ça s'est fait, on a déjà 80% de résultats. Après, effectivement, on peut aller chercher l'optimisation. Alors, il est vrai que je prends énormément de compléments alimentaires. J'ai jamais bien compté combien j'en prenais, mais je prends énormément de compléments alimentaires. Mais ça ne sert à rien d'en prendre si on n'a pas déjà une base, je dirais, de vie à peu près saine.
Oui, complètement. Et C'est intéressant, tu évoques effectivement le 80-20. Je constate, et on le voit d'ailleurs dans différents reportages, même dans différentes séries sur Netflix ou autres. Moi, j'adore ces sortes de documentaires qui parlent de l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharma, l'industrie de la santé et des différents scandales qu'il y a dedans ou des problématiques qu'il y a dedans. C'est que les éléments que tu évoques il y a quelques instants, c'est le 20-80, je suis d'accord. Mais pour moi, selon ma perception, c'est vraiment la base, c'est-à-dire pas fumer, manger correctement, avoir une hygiène de vie saine, ne pas boire d'alcool et faire une activité physique régulière. Avec ces éléments, on est déjà plutôt bien parti pour essayer d'optimiser sa santé. Et pourtant, la plupart des gens ne font pas ça. Alors, la plupart des gens qui nous écoutent sont des entrepreneurs et souvent, les entrepreneurs essayent d'optimiser un maximum leur quotidien, mais parfois sont happés quand même par les routines, par la vie, par différentes choses et vont s'oublier. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre société, il est si difficile finalement de réussir à prendre soin de sa santé alors qu'on cherche perpétuellement à optimiser tout ce qui est optimisé? Tu as des sujets comme l'optimisation fiscale, l'optimisation du chiffre d'affaires, l'optimisation du bénéfice, l'optimisation d'innombrables choses. C'est des sujets de quotidien et c'est vraiment le focus de la plupart des gens. Or, la machine et l'outil avec lequel on vivra toujours et qui est le plus précieux aujourd'hui, c'est son corps, c'est son être, c'est sa personne. Et pourtant, il est trop peu abordé, il est trop peu valorisé. Et c'est pourtant la base. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qui évolue au quotidien dans cet univers depuis maintenant de nombreuses années, que notre société n'est pas assez sensibilisée à ça ?
Alors, je vais répondre deux choses. Tout d'abord, dans la formulation de ta question, c'était intéressant parce que tu as dit que les personnes essayaient. Voilà. À partir du moment où on parle du principe que l'on essaye, ça veut dire qu'on ouvre la voie à l'échec. Tu vois, par exemple, quand tu as, mettons, un projet entrepreneurial qui te tient vraiment à cœur, tu n'essayes pas de réussir. Tu mets tout en œuvre pour réussir. C'est complètement différent. Quand un étudiant veut passer un examen qui lui tient à cœur, il ne va pas juste essayer de passer son examen. Il va mettre tout en œuvre pour réussir. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a une question de motivation et de discipline. Et ça, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux au niveau de la motivation et de la discipline pour différentes raisons, pour des raisons, je dirais, d'éducation, mais même pour des raisons génétiques. Il y a des personnes qui sont plus ou moins prédisposées à ne pas être motivées, plus ou moins prédisposées à procrastiner. Ça, c'est malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux. C'est à cause du circuit de la dopamine. Je ne sais pas si on a l'occasion d'en parler, mais en tout cas, il y a une part génétique à ça. Ensuite, ça c'est un premier point un peu sémantique, mais d'une manière un peu plus précise. En fait, nous avons deux moteurs dans la vie. Nous avons que deux moteurs. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Nos deux moteurs, c'est quoi ? Un, la recherche du plaisir. Et deux, l'évitement de la douleur. Nous ne faisons que ce que nous faisons uniquement pour chercher du plaisir ou pour éviter de la douleur. Le problème, c'est que la recherche du plaisir, elle a deux composantes. Une composante immédiate et une composante à long terme. Et notre psychobiologie fait que, malheureusement, notre recherche de plaisir immédiat est toujours beaucoup plus forte que notre recherche de plaisir à long terme. En fait, c'est beaucoup plus stimulant de manger cette grosse part de gâteau au chocolat à la crème, là, maintenant, tout de suite, pour mon plaisir immédiat, plutôt que de me dire « je vais éviter de la prendre parce que c'est meilleur pour ma santé à long terme ». Et en fait, ça, c'est un vrai problème, et qui finalement n'est pas qu'un problème de notre époque, c'est un problème, je dirais, psychobiologique, c'est que nous avons toujours l'idée de se dire que le plaisir à court terme est toujours plus intéressant que le plaisir à long terme. Donc voilà, je pense que c'est une des réponses possibles à ta question.
Mmh, ouais, complètement. Gratification instantanée versus gratification différée. C'est vraiment ce concept-là qui s'applique d'ailleurs dans tous les domaines, hein, également l'entrepreneuriat ou d'autres. Je vais revenir sur un point, c'est que tout à l'heure, tu évoquais le 20-80, la base, et qu'après, on peut aller optimiser. Si on s'adresse du coup aux entrepreneurs qui veulent optimiser, qui veulent aller chercher le 100%, voire le 110% de leur capacité, que ce soit capacité mentale, capacité physique, grâce au biohacking, quelles seraient les différentes étapes que tu recommanderais, que tu énumérerais à celles et ceux qui nous écoutent pour pouvoir tendre à aller les chercher ? Est-ce que ça passe par des outils spécifiques ? Est-ce que ça passe par des routines spécifiques ? Est-ce que il y a d'autres choses qu'on doit appliquer, qu'on doit mettre en place pour pouvoir justement, d'abord, j'imagine, faire un état des lieux, comprendre, et puis ensuite pouvoir optimiser ?
Oui, alors il y a différentes choses. Donc déjà, je vais revenir sur la base. Je pense qu'on ne revient jamais assez sur la base. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher à optimiser si la base n'est pas bonne. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller planter des graines si la terre n'est pas fertile. C'est complètement sans intérêt. Si on plante des graines dans une terre aride, on n'amènera rien du tout. Donc ça, c'est un premier point, c'est s'occuper des bases. Une fois que ça s'est fait, effectivement, on peut aller chercher l'optimisation. Donc, dans l'optimisation, il y a des choses aussi simples que les routines, hein, on va pas revenir dessus, mais prendre des douches froides, jeûner, méditer, éviter le stress, etc. Ensuite, effectivement, on peut aller dans des choses un petit peu plus complexes. Tu parlais du sommeil, ben, il y a tout un tas de techniques pour optimiser son sommeil. Par exemple, éviter la lumière bleue, méditer le soir, ne pas prendre des bains trop chauds, éviter le sport le soir, etc. Éviter de manger trop tard parce que la digestion empêche le sommeil. Donc ça, voilà, c'est des choses assez simples. Après, concernant l'exposition au stress, de toute façon, c'est illusoire de croire qu'on peut avoir une vie sans stress. La question est de savoir comment gérer son stress. Donc, apprendre à gérer son stress de manière X, Y, Z. J'évoquais la méditation, c'est pas forcément l'outil le plus simple, parce que certaines personnes trouvent que méditer, c'est un peu chiant, pour le dire très clairement. Mais on peut par exemple pratiquer la respiration type cohérence cardiaque. Ça, c'est une excellente routine qui permet de gérer son stress au quotidien. Après, l'idée aussi, ça va être d'augmenter sa dopamine. Hein, j'évoquais tout à l'heure la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur un petit peu fondamental, surtout de l'entrepreneur, hein, puisque c'est le neurotransmetteur de la motivation, de la concentration, de la volonté d'entreprendre. Et il faut vraiment faire un focus sur cette dopamine. Là encore, avant de chercher des choses compliquées pour la dopamine, il faut faire en sorte d'éviter de la gâcher. On peut gâcher sa dopamine en allant dans le dark side de la dopamine, qui est l'addiction. En fait, la dopamine, à la fois, c'est quelque chose qui nous sert grâce à la motivation, c'est également quelque chose qui nous dessert, parce que c'est aussi le neurotransmetteur de l'addiction. Et également des gratifications immédiates dont tu parlais tout à l'heure. Donc si on est complètement rivé sur les réseaux sociaux, par exemple, on va swiper sur notre téléphone portable, on va regarder les images, oh sympa, un chat, oh sympa, j'ai un like, etc. Et on se fait des petits shoots de dopamine, en fait, c'est un peu comme si on gâchait notre dopamine. Faut comprendre que le matin, c'est un petit peu comme si on se réveillait avec un stock d'énergie cellulaire, un stock de dopamine, et ou bien on l'utilise à bon escient, ou alors on va l'utiliser à mauvais escient. Ou là on l'utilise en la gâchant, sans n'importe quoi, ou alors on va l'utiliser pour des choses utiles. Alors par exemple, dans les choses utiles, ce qui peut être intéressant, c'est de voir un petit peu au cours de la journée de l'entrepreneur quels sont les moments où il est le plus productif, où il se sent le mieux dans sa tête. Nous avons chacun un rythme biologique, on appelle ça les rythmes circadiens, et en fait ces rythmes vont influencer notre état mental. Il y a des périodes dans la journée où tu vas sentir que tu es plus ou moins productif. Et bien, ces moments de la journée où tu es plus ou moins productif, c'est là où il va falloir que tu fasses le maximum de ton travail utile. Parce que comme ça, tu vas mettre à profit, je dirais, ton moment, je dirais, biologique d'optimisation avec ce qui est important. Une fois que tu as fait ça, c'est un point vraiment important, je dirais, de calendrier. Ensuite, il faut comprendre que la dopamine, elle est synthétisée au niveau du tube digestif, à 60%. Donc, si on mange n'importe quoi, si on mange des choses qui ne nous conviennent pas, on va avoir des troubles digestifs, on va mal synthétiser notre dopamine, et donc on va comme ça avoir, on sera plus prédisposé à avoir des espèces de crash, de dopamine. Ensuite, effectivement, on peut prendre des compléments alimentaires qui vont favoriser, la dopamine. Alors, un combo que je trouve extrêmement simple et que je trouve voilà, assez chouette, c'est par exemple caféine nicotine. Tous les fumeurs savent que ce qui les rend très productifs, c'est le mélange café-clope. Alors évidemment, je ne peux pas dire qu'ils ont raison de prendre du café et des clopes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a une tâche importante à faire, eh bien, si tu calques cette tâche importante à un moment de la journée où ça correspond à ton cycle, je dirais de productivité, et qu'en plus tu prends un petit peu de caféine, voire un petit peu de nicotine en chewing-gum ou en patch, et ben là tu auras une espèce de boost d'énergie qui va te rendre encore plus productif. Voilà, tu vois, tout ça c'est des choses qui sont extrêmement simples, mais qui à la base nécessitent tout d'abord d'avoir une hygiène de vie correcte. Ça sert à rien de prendre de la caféine et de la nicotine si à côté de ça on bouffe de la merde ou qu'on gâche sa dopamine à swiper sur les réseaux sociaux.
C'est extrêmement intéressant parce qu'en même temps, j'identifie dans ce que tu exprimes, expliques, des choses que je ne mets pas forcément encore en place ou des choses que certains de mon entourage mettent en place. Je prends l'exemple du caféine nicotine que tu viens d'évoquer où effectivement, ça donne des éléments de réponse au fait que certains amis entrepreneurs ont toujours une plaquette de chewing-gum à la nicotine dans leur sac et de temps en temps, ils le dégainent. C'est des chewing-gums en plus que j'aime pas trop parce qu'ils piquent un petit peu. Ils sont pas forcément super agréables, mais ouais, effectivement, je vois. Il y a un autre point aussi, tu spécifiais tout à l'heure, tu évoquais le stress. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que toujours dans cette optique de biohacking, je vois que désormais, il existe des outils qui initialement étaient conçus pour les diabétiques qui ont été un petit peu modifiés pour identifier le taux de cortisol que tu as dans le sang, qui est l'hormone du stress, et du coup pouvoir avoir une influence directe sur ton stress, ou en tout cas essayer de le monitorer de la meilleure façon possible. dans mon cas et dans le cas de la plupart des entrepreneurs, on est soumis quotidiennement à des challenges, à des sources de stress potentielles. Comment est-ce qu'on peut faire ? Tu évoquais la méditation, tu pourras évoquer peut-être d'autres outils ou d'autres façons de faire pour essayer de canaliser au maximum son stress, de le stabiliser ou au moins de réussir à l'interpréter pour ne pas devenir esclave de pulsions liées au stress consciemment ou inconsciemment.
Bah déjà, la première chose, enfin il y a plusieurs choses déjà. Déjà, première chose, accepter l'idée que nous sommes stressés de nature et c'est tout à fait normal d'être stressé. C'est illusoire de croire qu'on peut vivre une vie sans stress et non seulement c'est illusoire, mais en plus, ça ne serait pas souhaitable. En fait, il faut comprendre que nous sommes tous stressés tout simplement parce que nous sommes tous les héritiers de nos ancêtres. Et nos lointains ancêtres, c'était qui ? C'était des hommes du Cro-Magnon qui devaient avoir assez de stress pour courir plus vite que l'antilope qui voulait manger et courir plus vite que le tigre à dents de sable qui voulait les bouffer. Donc de toute façon, nous sommes uniquement les descendants de nos ancêtres qui ont réussi à avoir suffisamment de stress pour survivre. En fait, le stress, c'est tout simplement un mécanisme de survie. Donc déjà, il faut comprendre ça. C'est que nous sommes de toute façon stressés et c'est OK d'être stressé. Seulement, il y a deux choses. Il y a le stress qui peut nous détruire, parce qu'effectivement, du stress chronique, ça peut avoir pour conséquence des excès de cortisol. Et comme tu le citais tout à l'heure, le cortisol, c'est une hormone de stress qui, sur le long terme, peut abîmer notre santé. Mais il faut comprendre aussi que le stress, on peut finalement, d'une certaine manière, s'y habituer. En fait, le stress aigu, qui est le stress de survie, est extrêmement positif. Justement, même le stress nous permet d'être plus fort. C'est ce que l'on appelle parfois l'hormèse ou l'antifragilité. L'idée, c'est de comprendre que quand on soumet notre corps ou notre esprit à un certain stress, on le rend plus fort. Et tout ça, ça s'explique d'une manière totalement biologique et biochimique. Tout à l'heure, je parlais de la synthèse de l'ATP par nos cellules. Eh bien, en fait, quand on est soumis à un stress, on va forcer nos cellules à fabriquer plus d'énergie. On va forcer nos cellules à fabriquer plus de systèmes pour lutter contre le stress cellulaire. Et donc, finalement, nos cellules vont être plus fortes. Elles vont être plus, qu'on peut dire, antifragiles. Alors j'aime bien utiliser le terme antifragile parce que c'est un terme qui est plus utilisé dans le monde de l'entrepreneuriat suite au livre écrit par un certain Nassim Nicolas Taleb sur ce sujet. En fait, lui dit que quelque chose qui est dur, si tu le plies, ça va casser. Quelque chose qui est hermétique, c'est quand tu le plies, il va retrouver sa forme normale. Et l'antifragilité, c'est quand tu plies quelque chose, il va devenir plus fort, plus puissant. À partir du moment où on comprend que le stress, c'est quelque chose qui peut nous rendre plus forts, là, à ce moment-là, ça devient vraiment intéressant. Quand le stress devient notre allié, là, ça devient vraiment chouette. Alors, comment on peut faire pour faire de notre stress un allié ? Ben, par exemple, en se soumettant, que ce soit du corps ou de l'esprit, à des stress maîtrisés. Quand on est soumis, par exemple, avec notre corps à un stress type la douche froide, eh ben, on va forcer notre corps à résister, à devenir plus fort. Quand on va soumettre notre corps à un sauna, par exemple, pareil, il va devenir plus fort. Quand on soumet notre corps à de la musculation, on va avoir mal, on va avoir des courbatures parce que notre corps souffre, et bien ça va lui permettre de devenir plus fort. Quand on soumet notre esprit à un stress, quand par exemple on se propose des challenges stimulants, on va permettre à notre esprit d'être plus fort. En fait, il y a un équilibre extraordinaire qui s'appelle parfois l'état de flow, où finalement on va chercher à aller dans l'équilibre le plus parfait du challenge le plus extraordinaire correspondant à nos capacités les plus puissantes. À partir du moment où on est aligné entre un challenge suffisamment stimulant pour être excitant, mais suffisamment doux, je dirais, pour qu'on ait les capacités de réussir, là on peut vraiment progresser. Si tout de suite on se met un challenge beaucoup trop important, si par exemple un entrepreneur il se dit du jour au lendemain, moi je veux faire 1 million en 1 an, et que finalement il sait très bien qu'il n'en est pas capable, et bien finalement il se met un stress excessif et il ne va pas réussir. Alors que s'il se met un premier stress, un premier palier en se disant d'abord je veux faire 1000, ensuite je veux faire 2000, ensuite 4000, ensuite je veux monter progressivement à 100 000, et bien là il va plus pouvoir réussir justement parce qu'il fonctionne par étapes, parce qu'il se met un stress qu'il va pouvoir gérer. Et c'est ça qui va lui permettre d'être plus fort.
Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en t'écoutant, on constate plusieurs choses, mais il y en a une qui me saute aux yeux, c'est que finalement, c'est super d'avoir plein d'outils et on va en parler dans quelques instants. J'ai hâte d'avoir justement ton point de vue sur ces outils qui sont assez à la mode en ce moment. Mais la vraie science et le vrai outil qui fait la différence, jusqu'ici en tout cas dans notre échange, c'est aussi la connaissance de soi et la connaissance de comment notre corps, notre esprit et les différents éléments qu'on a évoqués vont réagir à des stress ou à des actions pour pouvoir finalement en tirer profit. Et le biohacking, c'est vraiment ça finalement, c'est vraiment comprendre comment on fonctionne pour réussir par des actions qu'on va mener ou par des choses qu'on va initier ou ajouter, à hacker, entre guillemets, ce processus et tirer pleinement profit de la chose. C'est très intéressant parce que ça vient casser la croyance du fait de tu dois avoir tel whoop à ton poignet ou tel ring ou raring à ton doigt ou autre pour pouvoir t'optimiser, mais ça passe déjà par te comprendre, te connaître, t'écouter et puis ensuite pouvoir effectivement traquer la data, parce que comme on dit, on ne peut améliorer que ce que l'on peut mesurer.
Et, tout à fait.
Et ça, c'est un sujet justement que j'ai envie d'aborder avec toi. Alors, c'est clair que lorsqu'il s'agit de prendre des compléments alimentaires, par exemple, t'évoquais le fait que t'en prenais beaucoup, j'imagine que ces compléments, tu ne les prends pas de manière hasardeuse. Tu dois certainement, du coup, faire des prises de sang ou identifier spécifiquement pourquoi tu veux prendre ces types de compléments plutôt que d'autres. Au même titre que lorsque tu vas, par exemple, analyser ton sommeil, tu vas peut-être utiliser un outil et connaître tes cycles de sommeil, etc., en amont pour pouvoir les optimiser. On voit de plus en plus de gens qui utilisent des outils pour ça. Pour ma part, par exemple, j'utilise une Whoop. Pour celles et ceux qui se posent des questions, on mettra le lien d'une part de tes réseaux sociaux et d'autre part de ce qu'est la Whoop, la Oura, etc., directement en description de cet épisode. J'utilisais, il y a de ça quelques années, la Oura Ring, qui est une bague connectée qui permet aussi d'analyser différentes choses. Toi, dans ton cas et dans ton quotidien, notamment quand tu parles de biohacking, quand tu recommandes différentes choses à certaines personnes, entrepreneurs, personnalités ou individuels, est-ce que tu recommandes d'utiliser ce type d'outils? Si oui, quels sont les usages que tu recommandes d'avoir? Qu'est-ce que tu penses de ces outils qui aujourd'hui, finalement, sont assez à la mode et mettent en lumière justement le biohacking?
Ça m'amuse ta question parce que ça me fait penser à une phrase que je dis tout le temps, comme tu le disais, je suis anesthésiste réanimateur et il y a une phrase que je répète tout le temps au bloc opératoire, souvent les gens se moquent de moi, c'est je dis je suis pas là pour enfiler des perles. C'est-à-dire que pour moi en fait, tous ces outils, il y a vraiment une part gadget qui est complètement sans intérêt parce que voilà, il faut pas se cacher, il y a tout un business autour de ça, de ces choses connectées. Bon, c'est bien beau de connaître ses cycles de sommeil, c'est bien beau de connaître son taux de cortisol, c'est beau de connaître son taux de glucose, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est pourquoi on le fait. Il y a cette fameuse conférence que tu connais certainement, c'est Start with Why. Voilà, la question, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est OK d'avoir tout un tas de data, mais comme tu l'as dit, on ne peut maîtriser que ce que l'on peut mesurer. Donc, la question est de savoir est-ce que ces mesures sont fiables. Certaines le sont, certaines ne le sont pas. Beaucoup de choses sont gadgets. Hein. J'étais au congrès du biohacking à Amsterdam là, le mois dernier. Il y avait énormément de choses qui étaient complètement des gadgets qui n'avaient aucune base scientifique. Donc déjà, je pense qu'il faut avoir l'esprit critique. Ce sont des outils qui donnent des indications. Mais les indications, ce ne reste que des indications. C'est-à-dire que si ta bague te dit, par exemple, que tu as un sommeil très perturbé, mais que toi, tu te sens super en forme le matin, eh bien, c'est ça qui est important. Donc, la question, c'est vraiment si ces outils ont leur utilité et qu'est-ce qu'on fait des datas. En fait, effectivement, on peut être très jusqu'au boutiste en biohacking. Hein. L'exemple même du jusqu'au boutisme en biohacking, c'est Brian Johnson, hein, qui est un entrepreneur américain qui a l'idée de vivre jusqu'à 200 ans, je crois, mais qui a une routine absolument de dingue, qui se fait suivre tous les jours par des tonnes de scientifiques, de médecins, qui mangent tous les jours la même chose, qui a une routine extrêmement précise, qui fait des changements de son sang, etc. etc. Bon, ça c'est OK, il est très 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 jusqu'au boutiste, mais on n'est pas forcément obligé d'être comme Brian Johnson pour optimiser sa santé. On peut faire des choses simples, on en a parlé, on peut effectivement traquer tous ces paramètres via des gadgets. Ce sont des indications. Ça peut avoir son utilité, mais ça donne juste que des indications. Après, moi j'aime bien aussi les prises de sang. Évidemment, à savoir que l'inconvénient d'une prise de sang, c'est que ça te donne une carte, je dirais une photo instantanée de ton état à l'instant T. Mais entre le moment où tu fais ta prise de sang et le moment où tu reçois les résultats, déjà ta biologie elle a changé. Donc là encore, ce sont des indications. C'est-à-dire que l'idée, c'est surtout de comprendre l'interprétation et quoi faire. Donc concernant tous ces gadgets, moi je trouve que la Oura, c'est vachement intéressant. Alors, au niveau des cycles de sommeil, oui, je trouve aussi que c'est intéressant au niveau de la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc ça peut être un outil intéressant. Après, là encore, il faut vraiment être pragmatique. La question, c'est pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Est-ce qu'on est vraiment là pour optimiser ou bien juste pour avoir le plaisir d'avoir un gadget high-tech et de donner du pognon à une société qui a créé un truc juste pour notre petit shoot de dopamine du matin?
Tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant et c'est un sujet qui vient souvent sur la table lorsqu'on parle de ces outils. J'ai souvent la réflexion, alors moi ça m'est jamais vraiment arrivé parce que j'ai instauré une petite règle où je ne le consulte pas le matin, justement. Mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui me disaient, ouais, moi j'ai arrêté ces gadgets parce que, justement, je me réveillais le matin, j'étais en pleine forme. Puis je regardais mon moniteur, que ce soit sur la Oura ou sur la Whoop, peu importe, et on me disait que j'avais fait une mauvaise nuit, et du coup, je démarrais mal ma journée parce que je culpabilisais, et je me disais que j'avais peu d'énergie. Et ça, le nombre de fois qu'on me l'a raconté, mais vraiment, et pour plein de choses, donc c'est très vrai. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, c'est un indicateur, faut avant tout s'écouter, et ensuite voir dans quelle mesure on peut l'influencer. Après, je trouve que en règle générale, c'est quand même relativement accurate, en tout cas pour moi, dans le sens où j'utilise la Whoop depuis maintenant 6 mois environ, j'ai utilisé la Oura pendant 2 ans, j'ai arrêté de le faire aussi pendant 2 ans complètement. Et tu vois, typiquement, il y a de ça 10 jours, je suis en team building en Espagne avec les membres de l'équipe. Et le premier soir, on va manger plus tard que prévu. On mange de la viande rouge au dîner et je bois 2 verres de vin. Donc moi qui bois jamais et qui ne mange pas de la viande rouge le soir parce qu'il y a une digestion lente et du coup je sais que je vais mal dormir, je sais que ça va influencer mon sommeil. Et le lendemain après-midi, lorsque je regarde effectivement mon moniteur, je vois à quel point la qualité de mon sommeil et la qualité de mon recovery a été atteinte à cause de ces deux simples actions. Donc, c'est vrai que ça peut donner des indications, mais après, quand tu te connais, bah, effectivement, le but, c'est de réussir à agir sur ça correctement. Tu as évoqué un point lorsque tu parlais de ta routine. Tu disais alors qu'en général, tu manges pas le matin, sauf si tu dois manger le matin et tu vas t'offrir du coup une source de protéines, une source de lipides. Donc tu fais du jeûne intermittent. Tu as évoqué aussi tout à l'heure le fait de traquer son glycogène, son taux de glucides, etc. J'ai un ami qui s'est mis. Corps et âme dans l'hyper-optimisation que tu évoquais avec l'exemple de Brian Johnson il y a quelques instants. Alors, pas à son niveau, mais presque, il pourrait presque tendre à y aller. Et il s'est imposé une diète cétogène pendant presque un mois. Et Dieu sait aujourd'hui, surtout lorsque tu te déplaces et que tu te balades, que ça peut être compliqué de tenir une diète cétogène où l'objectif c'est de manger moins de 25 grammes de glucides par jour, sans quoi effectivement tu sors de l'état de cétose. Est-ce que il y a, sans vouloir transformer toutes les personnes qui nous écoutent en machines qui vont faire des diètes cétogènes ou autres et rentrer en état de cétose dans les 10 prochains jours, mais est-ce qu'il y a des diètes ou en tout cas des préconisation que toi, en tant que professionnel de la santé et expert du biohacking, tu recommanderais pour permettre à quelqu'un qui n'a pas forcément de routine de changer déjà la façon dont il s'alimente ou s'hydrate pour avoir rapidement une différence et un impact sur son niveau d'énergie globale.
Alors écoute, je vais juste faire une toute petite correction par rapport à ce que tu as dit. Tu disais qu'effectivement la diète cétogène, c'était moins de 25 grammes de glucides par jour. En fait, c'est pas tout à fait 25 grammes de glucides, c'est 25 grammes de sucre.
D'accord,
Et
ouais.
là, je vais juste faire une petite. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, c'est juste que c'est pas la même chose. Faut pas confondre glucides et sucre.
Complètement, t'as raison.
Certes, les sucres sont des glucides, mais tous les glucides ne sont pas des sucres. Si tu manges des légumes, ce sont des glucides, mais qui sont composés de fibres, qui sont des les fibres, c'est quoi? Ce sont des glucides, mais que l'on ne peut pas digérer. Donc, si tu prends des légumes, ça peut tout à fait s'intégrer dans une diète cétogène. Je vais peut-être expliquer deux, trois petits trucs sur la diète cétogène. Donc, en fait, la diète cétogène, c'est un régime alimentaire qui, initialement, a été conçu pour les enfants qui faisaient des crises d'épilepsie avant qu'on connaisse les traitements des crises d'épilepsie, parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, quand on se mettait en état de cétose, ça calmait le cerveau et qu'au contraire, le sucre avait plutôt tendance à exciter le cerveau. Donc, concrètement, c'est quoi la diète cétogène? C'est diminuer au maximum les apports de sucre, hein, j'insiste bien de sucre et donc pas de glucides, de manière à pouvoir obliger notre corps à passer ce qu'on appelle en mode cétose. En fait, notre corps, il a deux types d'énergie. Il a le mode glucide, donc c'est-à-dire qu'il va consommer du sucre, et il a le mode cétose, c'est-à-dire qu'il va consommer du gras. Il faut comprendre qu'on n'a absolument pas besoin de sucre. On n'a absolument pas besoin de sucre. Ça, c'est là encore, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes descendants des lointains ancêtres Cro-Magnon. Les Cro-Magnons, ils mangeaient pas de sucre. Ils mangeaient surtout des protéines et du gras. Et ça les a pas empêchés de survivre. Les Esquimaux ne mangent absolument pas de sucre. Ils mangent pas de fruits, ils mangent pas de sucre. Ça les empêche pas de vivre. Donc, d'une manière très claire, nous n'avons pas besoin de sucre. Alors, une chose très simple pour avoir plus d'énergie, c'est éviter le sucre. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, éviter les petits déjeuners classiques que l'on prend en France, c'est-à-dire pain, beurre, confiture, viennoiserie, pain au chocolat ou chocolatine, ça dépend où vous habitez. Mais tout ça, c'est une bombe à retardement. Quand on prend du sucre le matin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un shoot de sucre, certes, ça fait un shoot de dopamine aussi, mais surtout, ça fait un shoot d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de réguler le sucre. Le problème, c'est qu'une fois que l'insuline est sécrétée, après, ça va entraîner une baisse très rapide du sucre, ce qui fait que quand vous prenez un gros petit déjeuner plein de sucre, vous allez avoir vers 11h une baisse d'énergie parce que justement, vous allez avoir une charge d'insuline qui va faire baisser le sucre très rapidement. Et donc, vous allez avoir cette sensation de baisse d'énergie. Alors que si vous prenez quelque chose de cétogène, c'est-à-dire ou bien ne pas prendre de petit déjeuner ou leur prendre un petit déjeuner gras et protéiné, vous n'aurez pas cette sécrétion d'insuline et vous n'aurez pas comme ça cette baisse d'énergie à 11h. Donc ça, c'est une chose de vraiment fondamentale. Je pense qu'une des choses principales à faire, c'est arrêter les apports de sucre rapide. Ça sert à rien et c'est délétère pour la santé.
Je te rejoins effectivement et il est important peut-être aussi de spécifier que c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire dans le sens où alors, moi, j'ai pris l'habitude, justement, tu vois, j'ai grandi dans un environnement où on mangeait pas de biscuits, on mangeait pas de gâteaux, on mangeait pas de trucs trop transformés industriellement, etc. Et le fait de manger sain, le fait de faire un jeûne intermittent, le fait de manger des flocons d'avoine le matin, des œufs et autres, du poulet, du riz et des légumes à tous les repas, c'était mon quotidien. Donc, et de pas manger de soda, de boire de soda ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on le voit, je veux dire, l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, il y a un reportage incroyable sur Netflix qui s'appelle Poison, qui est dingue. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est assez fou. Celles et ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller le regarder. Et puis, il y en a un autre qui est justement sur le sucre. On se rend compte qu'il y a du sucre absolument partout. Et pourquoi? Parce que ça rend accro, justement, parce que les gens ont été biberonnés au sucre depuis leur plus jeune âge sans même s'en rendre compte. Et du coup, bah, ça crée de l'addiction. Ce qui crée de l'addiction crée de la dépendance. Ce qui crée de la dépendance crée de la récurrence. Ce qui crée de la récurrence crée du chiffre d'affaires. Qui crée du chiffre d'affaires, de la croissance économique et donc des intérêts pour ceux qui le mettent en place. Donc, là, avec ce podcast, quand je t'ai invité, merci encore d'être là, hein, pour tout ce que tu partages, c'est incroyable. J'espère que les gens qui nous écoutent mettent de la valeur sur tes propos et sur ton expertise, et j'invite les gens à se renseigner sur tout ça, à aller regarder ce que tu fais. C'est vraiment mon but, éveiller les consciences au fait que c'est important d'avoir conscience et connaissance de soi et de l'importance de faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on mange et autres. Mais en même temps, éveiller les consciences sur le fait que ce n'est pas si facile, parce qu'on est dans une société où aujourd'hui, l'intérêt de l'agroalimentaire au global, ben, ce n'est pas forcément de nous avoir en bonne santé ou de faire en sorte qu'on mange de manière équilibrée, quoi.
Alors là, je vais rebondir sur plein de choses que tu as dit. Déjà, quand tu dis que l'important, c'est de se connaître soi-même, je veux dire, on n'a rien inventé, hein, c'est ce que disaient les Grecs anciens, le fameux gnotis eoton, qui signifie connais-toi toi-même, donc, et tu connaîtras les dieux, hein, c'était ce qui était écrit sur le fronton de Delphes. Donc voilà, c'est quelque chose que c'est la sagesse des anciens, et ça, c'est amusant de voir que ça revient à l'heure actuelle, tout comme le stoïcisme qui a un regain d'intérêt, notamment au niveau des entrepreneurs. Donc effectivement, connais-toi toi-même, ça c'est un premier point. Après, concernant tout ce que tu dis, il y a plein de choses incroyables au niveau prise de conscience. En fait, comment moi, je suis venu à m'intéresser par exemple au sujet du sucre, hein, puisque j'ai écrit un bouquin sur le sujet. En fait, à l'époque où j'avais un cabinet d'hypnose, je faisais énormément d'arrêt de tabac par hypnose. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, j'avais un certain protocole d'hypnose et j'avais des bons résultats, mais ce qui a rendu les résultats beaucoup plus intéressants, c'est deux éléments. Premier élément, c'est quand j'ai proposé des compléments alimentaires pour équilibrer les neurotransmetteurs à mes patients. Donc, ça montre bien que l'addiction au tabac, ce n'est pas juste un problème émotionnel, c'est aussi un problème physiologique. Donc, quand on donne les compléments alimentaires qui rééquilibrent les neurotransmetteurs, j'avais des meilleurs résultats. Ensuite, j'ai aussi constaté que si je parlais que du tabac et de la nicotine, je passais à côté de tout un pan de l'addiction. En fait, il faut comprendre que l'addiction au tabac, ce n'est pas que la nicotine, c'est également les additifs qui sont à l'intérieur de la cigarette, qui sont pour beaucoup des saveurs sucrées. En fait, c'est assez incroyable, mais dans les cigarettes, il y a des espèces de saveurs un petit peu sucrées, et comme tu l'as rappelé, le sucre est très addictif. Des études ont montré que c'était plus addictif que la cocaïne. Donc c'est ça qui m'a conduit à m'intéresser à l'addiction au sucre. Et effectivement, l'addiction au sucre est quelque chose de très vrai et de très utilisé par l'industrie agroalimentaire. Même quand tu achètes de la charcuterie, hein, tu achètes du jambon, si tu regardes, tu verras que parmi la composition, on va te dire ben voilà, viande de porc, gras de porc, mais quelque part, tu auras souvent aussi écrit glucides, glucose ou sirop de maïs. Donc l'industrie agroalimentaire sait très bien qu'en rajoutant des additifs sucrés, tu vas consommer plus, tu vas être beaucoup plus addict, mais malheureusement, le problème, c'est que ça va nuire à ta santé. Donc, voilà, je ne vais pas faire complot mondial, genre l'industrie agroalimentaire nous veut du mal, etc. Mais il faut être quand même assez clair que en France, on parle de la santé, mais en fait, la santé, globalement, ça n'intéresse personne. Finalement, je vais être un peu caricatural, mais moi, en tant que médecin, je ne gagne pas ma vie quand les gens ils sont en bonne santé. Moi, je gagne ma vie quand ils sont malades. Donc finalement, on a un système de soins qui va récompenser et payer la maladie plutôt que la santé et le bien-être. Donc c'est une espèce de prise de conscience qui est vraiment importante. En fait, le truc, c'est que si on fait attention à sa santé en France, on va par exemple essayer de manger bio, éviter le sucre, etc. Globalement, c'est un peu fastidieux, ça coûte de l'argent. Alors que globalement, en France, ce qui est cool, c'est qu'on a la sécurité sociale et au moins, quand on est malade, ben, ça ne coûte rien à voir le médecin. On a la sécu, la mutuelle et globalement, la maladie ne coûte rien. Donc, il y a toute une espèce de culture à changer et d'essayer de comprendre que la maladie, on peut l'éviter, pas toujours, mais en tout cas, on peut faire en sorte de l'éviter, on peut prendre soin de sa santé. Alors certes, c'est un petit peu exigeant, mais in fine, ça nous permet de vivre plus vieux et plus longtemps.
Ouais, complètement. Et c'est hyper intéressant ce que tu évoques. Alors ça, c'est un autre débat. On va rentrer dans les débats ou autres. Et le but, c'est pas le sujet du tout du podcast, ni de prendre position, ni quoi que ce soit. Mais par contre, moi, j'ai quand même un constat que je trouve assez dingue, assez triste. Je le vois en France, mais je le vois aussi en Suisse, d'où je suis originaire et d'où j'enregistre le podcast actuellement. où justement le système de santé est conçu pour prendre en charge les malades, pour financer les médicaments, etc. Et des gens qui, du coup, à la moindre problématique, au moindre petit rhume ou à la moindre petite douleur ou quoi que ce soit, ils vont aller chez le médecin, ils vont aller chez le physio, ils vont aller faire ci, ils vont aller faire ça, ils vont aller en arrêt, ils vont aller prendre des médicaments, ils vont plutôt que de simplement se responsabiliser, faire ce qu'il y a à faire, comprendre pourquoi, quelles sont les causes de ces conséquences. Et plutôt que de continuer perpétuellement à aller mettre des sparadraps sur des bobos, bah, essayer de trouver la racine du problème, soigner le problème lié peut-être à un comportement qui n'est pas adapté, et puis ensuite pouvoir avancer, grandir et évoluer. Et je trouve ça assez dingue, vu que de toute façon, il y a cette facilité, et que bah, on sait que les factures seront de toute façon payées par la mutuelle ou payées par l'assurance ou quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs un constat qu'on voit même dans la société au global, quand on parle de l'entrepreneuriat versus de personnes qui ne sont pas stimulées à entreprendre, parce que de toute façon, il y a un certain confort de vie qui a été mis en place par différents systèmes d'aide ou autres. Mais encore une fois, c'est un autre débat, mais c'est vrai que ça ne pousse pas forcément les gens à chercher à s'optimiser, mais plus un petit peu à se lamenter ou en tout cas à subir le système. Pour revenir au sujet initial et rester sur le biohacking, est-ce qu'il y a des stratégies concrètes de biohacking ou liées à la santé que tu préconises pour améliorer la clarté mentale, la stabilité et la résilience émotionnelle? C'est-à-dire que comme on l'évoquait tout à l'heure, on a parlé un petit peu des challenges et du stress auquel l'entrepreneur est soumis. Mais outre le stress auquel l'entrepreneur est soumis, l'entrepreneur, être entrepreneur, c'est gérer des problèmes, c'est prendre des décisions, c'est réussir à être intellectuellement équipé pour pouvoir justement avancer, faire face aux différents challenges. Est-ce que il y a des choses qui peuvent apporter ou qui peuvent aider, que ce soit par exemple je me suis rendu compte qu'à un certain moment, moi j'avais des maux de tête parce que j'étais déshydraté. Je me suis dit, c'est bizarre, je bois assez d'eau, mais je suis quand même déshydraté. Et j'ai découvert les électrolytes. Alors, est-ce que j'en fais le bon usage? Je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant, je prends des électrolytes une à deux fois par jour, mais en général, le matin, j'en prends au moins une fois par jour en poudre, dans un bon verre d'eau frais. En plus, elles ont bon goût, j'adore. Et du coup, je suis passé de, je suis déshydraté à plus du tout, même en relation directe avec mes prises de sang. Et je suis passé de je me réveille la nuit pour boire de l'eau parce que justement j'ai soif, à justement ne plus me réveiller la nuit, donc ne pas casser mon cycle de sommeil parce que j'avais plus de problèmes. Donc c'est un élément simple qui a eu un impact direct sur mes capacités mentales indirectement, parce que meilleur niveau d'énergie, plus de maux de tête, meilleure capacité à se concentrer, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres tips comme ça que tu pourrais partager pour celles et ceux qui nous écoutent, même si chaque cas est unique et que dans tous les cas, il est recommandé d'aller consulter un professionnel et de s'informer en complément de ce type de podcast, et c'est pour ça que tu as écrit des bouquins, c'est pour ça que tu es aussi présent sur Internet via différents supports. Mais est-ce que tu aurais deux, trois choses à nous partager à ce sujet?
Bon, en fait, j'ai déjà commencé par faire le lien avec ce qu'on disait jusqu'à présent. En fait, le biohacking, il a trois étapes. Première étape, c'est dépister les déséquilibres. Deuxième étape, c'est corriger les déséquilibres. Et troisième étape, c'est optimiser. Ben, c'est tout à fait ce que tu as décrit par rapport à toi-même. Tu as constaté un déséquilibre, c'est-à-dire j'ai des maux de tête. Tu en as conclu une hypothèse qui était je dois être déshydraté. Tu as cherché à corriger cela en buvant de l'eau. Et finalement, tu t'es rendu compte que tu pouvais optimiser en prenant des électrolytes. En fait, tu as très bien constaté et tu as très bien décrit quel était le game changer justement d'avoir pris soin de ton hydratation. Donc l'hydratation, c'est un point fondamental, hein. On est constitué à 70% d'eau. Mais en fait, le problème, c'est que quand on prend de l'eau, on ne prend que de l'eau. Or, notre corps, notre plasma au niveau du sang, c'est de l'eau, mais également des électrolytes. Donc si on boit que de l'eau, c'est un petit peu comme si on diluait nos électrolytes, et finalement, c'est quelque chose qui, à terme, n'est pas très bon, et ça peut même créer, comme tu le disais, des problèmes mentaux, hein. Ça peut même aller, quand on boit que de l'eau pure, à un œdème cérébral. Là, je vais très très loin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Alors après, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux? Oui, bien sûr. Donc d'abord, comme je disais, chercher les déséquilibres. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on dort? Comment on gère notre stress, etc. Corriger les déséquilibres, c'est-à-dire voir un petit peu comment on peut améliorer notre alimentation. Il y a des moyens extrêmement simples. On peut partir dans des tests compliqués qu'on appelle de la nutrigénomique pour aller savoir quel type d'alimentation est la plus adaptée à notre corps. Mais on peut faire des choses très simples, d'une manière très pragmatique. Tu l'as bien vu, tu manges de la viande rouge le soir, tu te sens pas en forme, tu manges je sais pas quoi, tu te sentiras en forme. Donc la question c'est comment tu te sens après avoir mangé telle ou telle chose. Donc chercher à corriger les déséquilibres. Après, effectivement, on peut aller plus loin dans l'optimisation. Alors ça peut aller par des prises de sang, ça peut aller dans des tests génétiques, on peut aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, par exemple, au niveau de la clarté mentale, comme je disais, on va aller chercher à équilibrer nos neurotransmetteurs. Beaucoup sont produits par le tube digestif, donc attention à ce que l'on mange, mais au-delà de ça, on peut par exemple prendre des compléments alimentaires ou des plantes dites adaptogènes qui vont nous permettre d'équilibrer nos neurotransmetteurs. Il y a des plantes extrêmement simples comme le ginseng, la rhodiola, l'ashwagandha, qui sont des plantes qui stabilisent vraiment les neurotransmetteurs. Après, effectivement, une fois qu'on a fait ça, on peut chercher d'autres choses. Je vais juste les citer pour dire que ça existe, mais j'insiste bien, je suis pas en train de recommander les personnes, de recommander à nos auditeurs d'en prendre. Mais il y a des médicaments qui sont parfois un peu détournés, ce qu'on appelle les nootropiques, qui permettent aussi de favoriser les capacités mentales. Alors j'insiste bien, ce sont des médicaments détournés et je ne dis absolument pas qu'il faut les prendre, je dis juste que ça existe. Donc il y a toujours moyen d'optimiser son cerveau, ses capacités mentales. Après, il y a d'autres moyens de le faire. Par exemple, il y a le fait d'exposer son flux sanguin cérébral à de la lumière rouge assez puissante. Hein. C'est un mécanisme qu'on appelle la photobiomodulation, où en fait, finalement, une lumière rouge très intense avec des longueurs d'onde rouge infrarouge vont aller stimuler la synthèse d'énergie au niveau de nos cellules. Donc, il y a différents moyens qui nous permettent d'augmenter nos capacités mentales. Donc voilà, je le dis, je le répète, je vais paraître un peu relou de dire toujours les mêmes choses, mais déjà il faut prendre soin des bases, hein, ça sert à rien d'aller prendre des nootropiques si on a une hygiène de vie déplorable, mais en tout cas il y a moyen d'optimiser nos capacités mentales. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment vu une augmentation des résultats hein, dans mon cabinet quand je faisais de l'arrêt de tabac à partir du moment où je donnais des compléments alimentaires qui peuvent rééquilibrer les neurotransmetteurs. Par exemple, la dopamine, elle est issue d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Et bien, il a été montré que quand on prenait de la tyrosine ou bien de la tyrosine en complément alimentaire ou alors sous sa forme, je dirais, plus active qu'on appelle la N-acétyl-L-tyrosine, on pouvait augmenter notre taux de dopamine. De la même façon, notre sérotonine, donc le neurotransmetteur, je dirais, de la sérénité, peut être augmenté en prenant un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Donc là encore, il y a moyen d'optimiser. Il y a également un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, qui est un petit peu celui qui va réguler tous les autres. Là encore, certains compléments alimentaires, comme par exemple la taurine, vont favoriser le GABA. Donc il y a moyen de faire énormément de choses. Par contre, voilà, là j'insiste bien, je cite différentes choses, mais je ne donne pas des conseils médicaux, hein, je ne fais qu'exposer ce qui existe. Donc il y a toujours moyen d'optimiser son cerveau, ses capacités mentales. Et à partir du moment où on optimise nos capacités mentales, on va pouvoir optimiser également nos capacités physiques puisque tout est lié. De la même façon, on peut par exemple, notamment chez les hommes, faire en sorte d'augmenter sa testostérone. Hein. Il a été montré que, par exemple, la testostérone était extrêmement importante pour les entrepreneurs. Il a été montré que les entrepreneurs qui performaient avaient plus de testostérone que les autres. Donc là encore, c'est quelque chose qui peut être optimisé.
Complètement. Merci pour tous ces éléments et je vais insister sur un point qui te tient à cœur et qui est normal, c'est que tu ne fais pas de recommandations particulières à l'égard de différents sujets et que chaque cas est unique et qu'il est important justement de pouvoir se documenter, s'informer, se faire son propre avis. Et j'invite personne à jouer l'apprenti chimiste ou à tester différentes choses, mais plus de se faire accompagner, de faire en sorte d'être bien accompagné et bien orienté, parce qu'on parle ici de la santé et on parle de sujets d'optimisation qui sont très importants mais très sensibles à la fois. D'ailleurs, on le voit, hein, tu parlais de testostérone, j'en ai parlé dans un sujet podcast qui est présent aussi sur la chaîne YouTube avec Anthony, où lui qui est dans l'industrie du fitness et qui était dans l'industrie aussi du culturisme, où il évoque l'usage de différents produits dopants, là en l'occurrence, qui fait que tu as différentes personnes qui, là on n'est plus sur du biohacking, on est sur un autre type d'optimisation, mais qui vont utiliser des produits qui sont souvent d'ailleurs illégaux, qui sont souvent faits dans des laboratoires clandestins et d'une qualité qui est parfois laisse à désirer, et qui vont commencer à faire les apprentis chimistes, et ça peut avoir vraiment des conséquences graves sur sa santé, et du coup on n'est plus du tout dans l'optimisation, on est plus dans la destruction pour une gratification court terme. Donc c'est important de faire attention, et tu as tout à fait raison de faire ce petit disclaimer. Denis, c'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec toi, d'échanger avec toi, merci pour ton temps, je sais que il est précieux et les éléments que tu as partagés sont d'une valeur vraiment inestimable. J'avais vraiment envie de traiter le sujet du biohacking avec un professionnel de la santé. Donc, merci docteur d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
J'ai adoré ce moment et celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, bien faites-le nous savoir comme à chaque fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, avec vos commentaires, avec votre présence sur LinkedIn et on mettra tous les liens en description si vous voulez aller plus loin dans ça. On mettra aussi, j'imagine que sur ton LinkedIn, tu as les références des différents livres que tu as écrits, etc., ou des articles que tu as écrits si on veut aller plus loin ou de ce que tu fais. Mais j'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque invité du déclic. Parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un déclic, un élément qui dans ta vie a littéralement créé une transformation, je dirais, identitaire chez toi? Ça peut être sur le plan personnel comme le plan professionnel, ça peut être une simple citation comme une situation ou une phrase ou une anecdote, positive ou pas. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin.
Waouh, alors ça je ne m'attendais pas à ça. Je dirais que ce qui a été le plus incroyablement transformatif dans ma vie, c'est le jour où j'ai appris que j'avais eu mon concours de première année de médecine. Comme je le disais au début, moi j'étais très clairement un élève très moyen. Vraiment, j'ai eu mon bac mention passable. J'étais vraiment pas du tout, je pense, prédisposé à faire des grandes études. Quand mon père a su que je voulais faire médecine, il s'était dit ah ben, au moins c'est cool, il aura peut-être la motivation d'avoir le bac, on verra après pour lui faire faire un BTS. Donc voilà, le jour où j'ai appris que j'avais réussi médecine, pour moi ça reste le moment le plus incroyable et le plus puissant de ma vie. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que, évidemment, je me suis donné beaucoup de mal, j'ai énormément travaillé là-dessus, mais aussi, ce qui est fou, c'est que j'avais une visualisation extrêmement puissante et en fait, pour moi, c'était évident que j'allais réussir. À la fois, tous les voyants étaient au rouge et montraient que je risquais de me vautrer, et puis, finalement, j'étais tellement persuadé que j'allais réussir que j'ai réussi. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est que nous avons en fait en nous quelque part une boussole interne et que quand on est vraiment, vraiment aligné avec ce pourquoi on est fait, on peut parler de l'ikigai, enfin il y a plein de manières de conceptualiser la chose, mais quand on est vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment faire, avec ce qu'on peut appeler entre guillemets notre mission de vie, ben, d'une manière assez étonnante, ça fonctionne, même si a priori les indicateurs montrent que ça ne devrait pas dû fonctionner.
Merci Denis, c'était vraiment un plaisir de faire cet échange avec toi et puis on se tient au courant pour la suite.
Yes, un grand merci à toi Alec et puis ben, bravo pour tout ce que tu fais et puis un grand merci en tout cas encore pour toute l'organisation.
Merci.